Jeudi 18 juillet. Alix et les enfants sont en route pour l'école, mais Nathan n'est toujours pas parti au travail. Josie l'a entendu mentionner une réunion à 10h à Bishopsgate et dire que ça ne valait pas la peine d'aller au bureau avant. Comme Alix le lui avait annoncé, la température, qui était agréable pour un milieu de mois de juillet, est devenue insupportablement élevée. Nathan est assis dans le jardin avec son ordinateur portable et une tasse de café, et, même d'où elle se tient, Josie discerne le voile de sueur qui recouvre son front. Elle se fait la remarque qu'il s'installe dans le jardin le matin, volontairement, pour éviter de devoir partager la maison avec elle. Elle plaque un sourire sur sa bouche et se faufile dehors par la baie vitrée. Elle porte encore les vêtements qu'Alix lui a prêtés samedi. Sa tenue à elle est rangée dans sa chambre, mais elle ne veut plus la porter même si elle est propre. Elle espérait qu'Alix prendrait pitié en la voyant descendre l'escalier ce matin, vêtue du même pantalon et du même t-shirt, qu'elle lui en aurait proposé d'autres. Mais non. « Oh là là !» lance-t-elle quand elle arrive à côté de Nathan. « On crève déjà de chaud alors qu'il n'est pas 9h. » Ils disent qu'il fera 32 degrés d'ici à midi.
« Purée !»
Elle attend un instant avant de se tourner vers lui. « Au fait, Alix m'a dit que vous alliez peut-être utiliser le bureau samedi soir, quand sa sœur sera ici. »«
Oh !» répond-il. Il a l'air un peu déstabilisé, et Josie en conclut qu'ils en ont parlé entre eux, en secret, en privé, dans son dos.
Oui, c'était le plan, mais finalement non. Apparemment, tout le monde dort ici samedi. Alix avait prévu de vous en parler. Ses deux sœurs, leurs trois enfants. Ils vont utiliser le canapé lit, donc.
Il s'éclaircit la voix et ne poursuit pas. Des mensonges. Un tas de mensonges. Pas de souci, je trouverai une autre solution. Et vous, où est-ce que vous allez vous réfugier?
Je resterai sans doute ici pour les accueillir et puis vers 19h, je sortirai rejoindre des amis.
Les mêmes amis que ceux avec qui vous étiez vendredi dernier, quand vous nous avez abandonnés pour le dîner? S'inquiète-t-elle d'un ton qu'elle voudrait amuser, mais qui ne l'est pas. Elle est tellement en colère qu'elle pourrait crier. Il lui jette un regard indécis et hausse les épaules.
« Peut-être je sais pas encore. »
rétorque-t-il en buvant d'une gorgée le reste de son café avant de se taper la cuisse.
« Bon, je dois aller au travail. Qu'est-ce que vous avez de prévu, vous ?»«
Rien de spécial. On va avancer sur le podcast, puis j'irai travailler. C'est tout. » »«
Et de façon générale, qu'est-ce que vous pensez faire ? Il vous faut absolument une solution à partir de samedi, n'est-ce pas ?»
Josie le détaille froidement du regard. Il improvise. Elle le sent. Alix ne lui a pas demandé de dire cela. « Et ce ne sont absolument pas ses oignons », se dit-elle furieusement. Elle parvient cependant à rester cordiale.
« Oui, vous avez raison. Mais, Nathan, ce que j'ai découvert, c'est que quand on perd son chemin, la vie vous en propose toujours un nouveau. »
Alors vous savez, on verra bien. Elle hausse les épaules et retourne dans la cuisine, attrape le chien et remonte dans sa chambre, où elle attend que Nathan s'en aille en claquant la porte d'entrée derrière lui quelques minutes plus tard. Elle l'observe dans la rue par la petite fenêtre de sa chambre, sa veste de costume balancée par-dessus son épaule, ses lunettes de soleil à la noix remontées sur son nez stupide, paradant comme s'il était le roi du monde. Alix lui a dit qu'elle passerait faire des courses après l'école, qu'elle serait de retour vers 9h30. Il est désormais 9h10. Josie enferme le chien dans sa chambre et descend l'escalier sur la pointe des pieds jusqu'au premier étage. La porte de la chambre d'Alix et de Nathan est grande ouverte, ce qu'elle interprète comme le signe que ça ne dérange pas ses hôtes qu'on y entre. Josie n'a pas encore pris le temps de bien étudier cette pièce. Ce serait pousser le bouchon un peu trop loin. Beaucoup trop loin. Mais Nathan l'a mise de mauvaise humeur avec ses histoires de solutions. Si Nathan est tellement convaincu qu'elle doit planifier quelque chose, décide-t-elle, alors elle le fera. Leur lit est très grand, avec une tête en rotin et en velours vert pâle. Il est défait, de volumineux nuages de couettes moelleuses se sont formés au pied du lit,
certainement sous l'effet de coups de pied nocturnes pour repousser la chaleur étouffante. Deux gros oreillers pliés comme des biscuits chinois se trouvent en tête de lit et deux autres sont tombés au sol. Les murs sont recouverts d'un mélange de peintures, de photographies et d'affiches. Deux ampoules d'un blanc laiteux descendent du plafond, une de chaque côté du lit. En guise de lampe de chevet, se dit Josie. Un beau window rectangulaire, dans lequel se trouve une banquette, surplombe le jardin. Des vêtements sales y traînent, surtout des habits d'homme, notamment une paire de chaussettes trouées particulièrement sales. Il pourrait quand même s'en acheter de nouvelles, il a les moyens. Entre la chambre et leur salle de bain se trouve une sorte d'antichambre, un dressing en réalité, avec des vêtements organisés sur des portants de chaque côté, ceux d'Alix en face de ceux de Nathan. Elle passe une ou deux minutes à toucher les tenues d'Alix. Elle passe les tissus entre ses doigts, les soies, les lins et les tissus éponges tout doux. Elle ouvre le tiroir à chaussures sous la penderie et admire les rangées nettes de sandales à lanières dorées, de bottines à talons en daim, d'escarpins soyeux à brides. Elle voudrait toutes les sortir et les essayer, s'admirer dans le grand miroir. Mais les minutes filent, alors elle se retourne vers la penderie de Nathan et se met à lui faire les poches. Elle ne sait pas précisément ce qu'elle cherche, mais une intuition forte lui assure que Nathan est assez stupide et Alix assez confiante pour qu'elle puisse trouver quelque chose d'utile. Elle sort des reçus chiffonnés, des cartes de visite, des paquets de chewing-gum vides, des trombones, des sachets de sucre, des emballages froissés de paille, des cartes d'embarquement pour Bruxelles et Dublin, un peigne, une moitié de bonbons à la menthe, jusqu'à ce que... Oui, là, enfin, juste ici, dans la poche intérieure de sa veste de costume bleu, elle découvre exactement ce qu'elle cherchait. Un sachet transparent contenant un résidu de poudre blanche collé aux parois. Elle l'imagine maintenant dans un bar, la cravate jetée par-dessus son épaule, entourée de shots de tequila et d'hommes vociférants, à sniffer de la cocaïne sur une table en verre. Répugnant, se dit-elle. Absolument répugnant. Avec une femme et des enfants qui l'attendent à la maison. Dans une autre poche, elle trouve un morceau de serviette en papier avec un numéro illisible noté dessus. Puis ailleurs, la pochette en carton d'une clé de la chambre d'un hôtel, le Rellings, portant le numéro 23. Elle prélève ces trois objets, les place dans sa poche, retourne dans sa chambre et attend qu'Alix rentre à la maison. Nathan voulait qu'elle trouve une solution. C'est chose faite. Alix revient quelques minutes plus tard, bardée de sacs du supermarché. Josie l'observe tandis qu'elle les dépose sur l'îlot de la cuisine. Une barquette de fraises et de melons découpés, des céréales aux noix et au miel, un énorme steak, un filet d'oignon, des sachets de pâté pour chat sur lesquels apparaît un félin qui ressemble exactement au chat nuage, comme si ses repas étaient spécialement conçus pour lui. J'irai chez ma mère samedi quand vos sœurs arriveront. Lui annonce Josie. Alix se fige instantanément, un sachet de biscuits au chocolat dans sa main suspendue en l'air. Oh, d'accord, super. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis sur le fait de lui en parler? Josie hausse les épaules, attrape un minuscule poil qui s'est détaché de la fourrure de Fred et le laisse tomber paresseusement au sol. Je n'ai pas vraiment eu le choix, en fait. Nathan m'a dit ce matin que vos deux sœurs restaient dormir. Donc on dirait que le canapé l'y a pris. Pourtant, je croyais que votre autre sœur vivait à l'ombre. Oui, c'est vrai. Mais ses enfants ne voulaient pas manquer une partie de la fête. Ils voulaient dormir ici aussi. Donc oui, j'en suis navrée, Josie. Ça s'est fait un peu à la dernière minute. Mais je suis tellement contente que vous voyez votre mère. Il est grand temps, non? Josie hoche la tête comme si elle avait bien pensé aux mots d'Alix et les approuvait. C'est comme ça, en tout cas. Mais nous avons encore 2 jours. Et tant que je suis là, nous devrions essayer d'en profiter au maximum. Vous parlez du podcast? Oui, on devrait essayer d'enregistrer le plus possible. Quand elle pense à la semaine prochaine, Le cœur de Josie se met à palpiter sous le coton du t-shirt de marque qu'Alix lui a prêté. Elle sent la chaleur de l'air, le soleil déjà brûlant alors qu'il débute à peine son arc dans un ciel vide et embrase le toit vitré de la cuisine d'Alix. La température ne va pas retomber. D'ici à dimanche, il fera 35 degrés. Elle pensait qu'elle aurait plus de temps. Elle doit se dépêcher. Elle lève les yeux vers Alix qui la regarde d'un air pensif.
« Je ne suis pas bien sûre de ce dont nous pourrions parler maintenant. Enfin, j'ai l'impression qu'on est arrivé au bout. Nous sommes à jour, sauf si on évoque les événements de vendredi soir, bien sûr. Vous voulez en parler ?»
Josie acquiesce, les lèvres pincées. « Est-ce qu'on... » demande Alix en faisant un geste vers le studio.
Allons-y.
Bonsoir, je suis votre jumelle d'anniversaire. Une série originale Netflix. Dans une reconstitution, un couple marche dans une rue sombre. Un bandeau apparaît. Enregistrement du podcast d'Alix Summer, 18 juillet 2019.
Au début, il ne voulait pas venir. Il en a fait tout un plat. Je lui ai acheté de jolis nouveaux vêtements. Mais il ne voulait pas les mettre. À la place, il a insisté pour porter des fripes de chez Primark. Il s'est volontairement fait faire une coupe de cheveux affreuse, juste pour m'énerver. Alors bien sûr, comme Nathan n'a pas fait l'effort de venir...
Josie soupire.
Vous avez bien vu, il était terriblement vexé. Il bouillonnait pendant tout le chemin du retour. Il suintait la colère, une rage sombre qui augmentait. Grossissait. Quand on est rentré,
le couple s'introduit dans l'immeuble des fers.
L'atmosphère était insoutenable. Je ne pouvais pas contrôler ma colère plus longtemps. Je la sentais entière, vriller et vibrer en moi comme une tempête. Et enfin, après toutes ces années, j'ai trouvé la force de la faire sortir de moi, de la propulser dans l'univers pour qu'elle frappe Walter, bien entre les deux yeux. Je la lui ai crié au visage. Pédophile. Tu es un pédophile. Tu m'as manipulée et tu m'as prise quand j'étais trop jeune pour savoir ce que je voulais. Puis tu as séduit Brooke et tu l'as prise quand elle était trop jeune pour savoir ce qu'elle voulait. Ensuite, tu as abusé de ta propre fille, la seule qui te restait après ce que tu avais fait à Roxy. Tu as agressé ta fille, encore et encore, et je t'ai laissé faire parce que tu m'as programmé pour que je te voie comme un dieu. Et que je pense que tu peux avoir tout ce que tu veux. Mais tu n'es pas un dieu, Walter. Et tu ne peux pas avoir tout ce que tu veux. Plus jamais. Ça s'arrête ce soir. Ce que tu fais, Irene, ça s'arrête ce soir. Plus rien. Plus jamais. Et j'ai couru vers la porte d'Irene. Et je l'ai ouverte d'un coup. Et elle était là. Mon bébé. Ma fille qui me dévisageait, les yeux grands ouverts. Mais mort. Je lui ai dit, fais ton sac, ma chérie, vite, je vais te tirer de là, on part. J'ai dit, je sais ce que ton père te fait, je suis tellement, tellement désolée, mon amour, je suis désolée de t'avoir abandonnée. Et c'est à ce moment-là que je l'ai senti. Un coup à l'arrière de mon crâne. Puis une sorte de chaleur profonde qui irradiait. Puis la douleur, la viscosité. Je me suis retournée et j'ai vu le bras de Walter s'abattre sur moi avec la télécommande qu'il venait d'utiliser pour me frapper encore à la main, droit sur mon visage, et il m'a frappée avec, encore et encore sur le visage et le crâne. Erin ne bougeait pas. Elle était si frêle. Si frêle. Alors je me suis jetée sur Walter. Je l'ai repoussée de mes deux bras tendus et j'ai crié « Assez, ça suffit !» Puis je l'ai vu lever la main pour frapper ma fille et je me suis jetée entre eux. Et là, aussi vite que ça avait commencé, ça s'est arrêté.
À l'écran, l'acteur qui joue Walter reprend son souffle dans l'embrasure d'une porte, la télécommande à la main, et les actrices jouant Erin et Josie, debout dans une chambre, se prennent dans les bras l'une de l'autre. Puis Walter tourne les talons et disparaît.
Un moment plus tard, j'ai jeté un coup d'œil vers le salon.
Walter était assis à la table avec son portable. La télécommande était posée sur la table basse. Comme s'il voulait nous faire croire que rien de tout ça ne s'était produit. Comme si je n'avais pas la lèvre ouverte, comme si du sang ne me coulait pas dans la nuque. Comme s'il croyait qu'on allait continuer comme avant. Comme d'habitude. Ce que nous faisions toujours. Mais il se trompait. J'ai pris mon sac à main, j'ai pris mon chien, j'ai pris Erin et nous sommes partis, sans dire au revoir. Les actrices jouant Erin et Josie referment la porte de la maison derrière elles et celle qui joue Josie se retourne un instant pour regarder Walter, assis derrière le bow window, fondu au noir. 11h. Alix expire. Elle a l'impression de ne plus avoir respiré depuis plusieurs minutes. Le scénario que Josie lui a dépeint la rend claustrophobe, comme si elle était prise au piège dans cet appartement sombre et miteux avec eux. Elle peut même sentir l'odeur du sang et de la peur. Elle les imagine dans la rue, Josie et Erin, n'emportant que ce qu'elles avaient pu attraper pendant que le sang se figeait sur le visage de Josie. Walter, immobile, sans remords, assis à la fenêtre. Mais c'est ici que la séquence commence à se fracturer. Josie s'est rendue chez Alix à Queen's Park, un trajet de 16 minutes à pied depuis son appartement de Kilburn. Pourtant, elle est arrivée à 3h du matin. Alix se souvient du froid. Que s'est-il passé entre 22h quand ils sont rentrés du dîner et 3h du matin quand Josie a sonné chez elle? Elle observe son interlocutrice. Où êtes-vous allée quand vous avez quitté l'appartement? Josie pousse un petit rire.
Ici, bien sûr.
Mais entre-temps,
nulle part.
Josie, vous dites que la dispute a commencé quand vous êtes rentrée à la maison. Et elle n'a duré que quelques minutes.
Non.
L'interrompt Josie.
Ça n'a pas commencé immédiatement quand nous sommes rentrés. Je n'ai pas dit ça. C'est arrivé quand Walter est sorti du lit. Comme il fait tous les soirs. Comme je vous l'ai dit. Nous sommes allés nous coucher et je n'arrivais pas à dormir. Ça m'a pris des heures. Quand enfin je me suis endormie, j'ai senti la couette bouger. Je savais ce qu'il allait faire, où il allait. Et c'est là que tout a commencé.
Donc vous étiez au lit, en pyjama?
Oui.
Et vous vous êtes levée et l'avez suivi?
Je l'ai vu approcher de la porte d'Erin. Et c'est là que j'ai crié.
Mais quand vous êtes venue ici, vous n'étiez pas en pyjama, vous portiez votre robe, la jolie robe.
Je l'ai remise après. J'allais pas traverser la moitié de Kilburn en pyjama.
Mais il y avait du sang sur cette robe. Comment est-ce possible si vous ne la portiez pas pendant l'agression?
Alix, je ne comprends pas ce que vous voulez que je vous dise. Vous ne me croyez pas?
Si, absolument, bien sûr que si. Mais les auditeurs vont écouter ce podcast comme s'ils lisaient un livre. Ils remarqueront les incohérences dans l'histoire. Et toutes les deux, cela fait un mois qu'on parle de tout ça, mais les auditeurs vont avaler le podcast d'un coup, en une journée, une fois qu'il sera monté et publié. Et il faut que ce soit logique, pour eux. Vous comprenez?
Josie soupire lourdement.
Oui, d'accord. Mais on pourrait espérer que les gens qui écoutent vos podcasts ont de l'empathie, sont bienveillants. Qu'ils comprennent que quand un événement de cette nature se produit, quelque chose comme ce qui m'est arrivé, quand une femme est victime d'abus, de violences et de manipulations, cela puisse être un peu confus pour elle, parfois.
Oui, Josie, bien sûr. Vous avez raison, évidemment. C'est pour ça que je veux vous aider à tout mettre à plat, pour ensuite recoller toutes les pièces ensemble, pour que tout soit logique. C'est tout.
Walter est donc sorti du lit en pleine nuit. Vous l'avez interpellé. Il vous a attaqué. Il a essayé de frapper Erin. Avec votre fille, vous avez attrapé quelques affaires, vous vous êtes habillés et vous êtes partis ensemble.
Josie hoche fermement la tête.
Oui.
Vous êtes venue ici. Et Erin, où est-elle allée?
Elle est partie dans l'autre direction.
À 3h du matin?
Oui.
Elle avait des affaires avec elle?
J'imagine, oui. Un petit sac.
Alix lui adresse un sourire vide. Elle voudrait insister. Elle veut comprendre pourquoi Josie a laissé sa fille vulnérable seule, en direction d'on ne sait où, au beau milieu de la nuit. Elle veut savoir.
mais elle sent que Josie est en train de se refermer, qu'elle se barricade de nouveau. « J'espère qu'Erin va bien », soupire Alix. « C'est terrifiant de penser à elle seule en pleine nuit. »
« Oui »,
renchérit Josie fermement. « Mais elle était mieux dehors qu'à l'intérieur de cette maison. Peu importe où elle se trouve, elle est en sécurité. » Elle annonce cela avec une certitude étrange. Comme si le monde n'était pas peuplé de hordes de personnes dangereuses qui s'en prennent à celles qui sont vulnérables. Comme si rien de mauvais n'avait pu arriver à sa fille entre 3 heures du matin samedi dernier et aujourd'hui. Je crois que nous devrions vraiment essayer de la retrouver, Josie. Cela fait presque 6 jours. Pas de message, pas d'appel. Je sais que Walter ne peut plus lui faire de mal maintenant. Mais qu'est-ce qui nous dit qu'elle ne s'est pas retrouvée dans un endroit encore pire? Peut-être que son amie d'Internet n'était pas la personne qu'elle prétendait être. Enfin, on entend toutes sortes d'histoires de nos jours, n'est-ce pas? Des gens qui ont de fausses identités en ligne. C'est vraiment « elle va bien, Alix. Elle va bien. Elle peut s'occuper d'elle-même. » Mais vous m'avez dit qu'elle en était incapable. Que vous la nourrissiez avec des pots pour bébé que... Alix tressaille quand Josie retire son casque et le jette sur le bureau. « J'essaie de vous raconter mon histoire, Alix. Ma vérité. Et j'ai l'impression que vous essayez de la transformer en autre chose. Soit vous voulez entendre ce que j'ai à vous dire, vraiment. Soit on s'arrête là. Vous ne pouvez pas tout avoir. Ce n'est pas possible. » Elle attrape le chien sur ses genoux et quitte le studio d'enregistrement, furieuse, laissant derrière elle Alix, abasourdie.